L'écho du parquet. Musique et danse traditionnelle. L'émission qui met le feu au plancher.
Saison 3.
La, c'est pas les Scottish, c'est ça, c'est une mazurka, ça. Oui.
Et bonjour.
Bonjour, c'est l'écho du parquet, c'est l'émission 49 et vous pouvez l'écouter sur fréquence 7 92 FM, Radio Méga 99.2 FM. Radio Saint-Férial 94.2 FM, ça c'est si vous habitez en Drôme Ardèche. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur notre audioblog Arte Radio, l'écho du parquet.
Et dans cette émission 49, on part à la découverte du groupe Malicorne. Et on va vous plonger directement dans l'univers de Malicorne avec une spécialiste parmi les spécialistes du groupe, puisqu'il s'agit d'Oran Murai Zimmermann, qui a soutenu en octobre 2024 une thèse de musique sur Malicorne. Et c'est elle qui va nous guider dans la découverte du groupe. Et sa thèse s'appelle « Malicorne et le folk revival français 1972-1981. Histoire, répertoire, arrangement. La tradition réinventée entre romantisme et uchronie. »
C'est pour écueillir, mon père, mon bâtard, c'est pour écueillir. Je n'ai pas cueilli, j'ai cherché des nuits. Au son de l'alouette, je veille et je dors. J'écoute l'alouette et puis je m'endors. Je n'ai pas cueilli, j'ai cherché des nuits. Je n'ai pas cueilli, j'ai cherché des nuits. J'ai trouvé la cueille dessus son lit. Au son de l'alouette, je veille et je dors. J'écoute l'alouette et puis je m'endors.
J'ai un parcours de musicienne classique avant tout. J'ai fait d'abord une licence de musicologie à la Sorbonne, Paris 4. Et c'est par là que j'ai commencé à m'intéresser à l'ethnomusicologie. Et notamment à ce qu'on appelait le fonds Braille-Oyou, qui recensait un certain nombre de musiques traditionnelles. Et suite à cela, je suis partie au CNSM de Lyon, donc le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, pour faire mon cursus en alto. Voilà, j'ai aussi une formation de pédagogue en alto. Et puis après, j'ai fait un doctorat sur le groupe Malicorne. L'intérêt vient aussi des vinyles de mon père, qui aimait à la fois le rock progressif, les Pink Floyd, et puis il y avait voilà, cet ovni dans sa discothèque, le groupe Malicorne, alors que finalement il ne s'intéressait pas tellement à d'autres groupes de musique trad française. Donc j'ai voulu un petit peu creuser pourquoi, qu'est-ce que ce groupe avait de particulier par rapport à ce mouvement-là dont j'ignorais tout jusqu'à m'y intéresser de plus près. Les membres de Malicorne n'ont pas tous eu le même parcours eux-mêmes. Il y a des autodidactes, disons, partiels, comme Laurent Vercambre, qui, lui, vient d'un milieu mélomane. voire avec des musiciens de bon niveau qui ont fait le conservatoire. Et lui, il a un parcours extrêmement modeste en conservatoire. Il a appris la guitare pendant 1 ou 2 ans. Ça lui cassait les pieds, le solfège, évidemment. C'était voilà, la voie du dégoût. Et donc ensuite, il s'est intéressé à d'autres instruments. Il a fait un petit peu de piano et il a appris le violon en parfaite autodidacte, ce qui me paraissait être quelque chose de absolument extraordinaire. Gabriel Yacoub, lui, il n'a même pas son bac. Puis finalement, celui qui est peut-être le plus aguerri quand il se lance dans l'aventure de Malicorne, c'est Hugues de Courson, qui lui vient d'une famille plus bourgeoise, qui a une éducation un peu plus solide au niveau musical. Et je me suis intéressée à la question d'autodidaxie et de pourquoi certains musiciens ont pu faire un passage au conservatoire et finalement quitter très rapidement le conservatoire pour devenir professionnel par d'autres moyens. Et puis des musiciens qui ne rentrent jamais, ne mettent pas les pieds dans un conservatoire et ont finalement créé des nouveaux réseaux d'apprentissage. Et c'était justement l'intérêt du réseau folk à ce moment-là. Dans les années 70, où le conservatoire était aussi beaucoup moins ouvert et les perspectives... pour ceux qui ne le fréquentaient pas, était sans doute beaucoup moins large aussi.
Je me lève dès le matin, je m'en vais de village en village. L'un me donne un bout de pain, l'autre un morceau de fromage. Et quelquefois par hasard, tu t'en moques. Un petit morceau de là.
Et Marie Yacoub, alors elle, son parcours est peut-être encore plus, plus une question de presque hasard. En tout cas, c'est comme ça qu'elle présente les choses, puisqu'elle elle était donc en sciences politiques. Quand elle s'est mise à fréquenter les hautes nanises, les scènes ouvertes, et en tant que spectatrice. Et c'est là qu'elle a rencontré Gabriel Yacoub, qui l'a embarqué dans l'aventure de Malicorne.
Salut à la compagnie de cette maison, je vous souhaite une bonne année, du bien à foison. Nous sommes d'un pays étrange venu dans ce lieu. Faire la demande de la part à Dieu. Si la fève s'y présente, nous la planterons dans un jardin sous un arbre, nous la mettrons. Nous prierons la Sainte Vierge, Jésus les trois rois, qu'il nous fasse à tous la grâce que la puissions voir.
Le terme d'utopie, il paraissait absolument cristallin par rapport au mouvement folk pour plusieurs raisons. Il y a effectivement ce volet d'ouvrir le champ des possibles, un nouveau monde, un nouveau milieu d'apprentissage, de création de la musique, d'émulation. Alors que ça paraissait déjà un système un peu verrouillé, à la fois par le conservatoire, mais aussi parce que la musique se faisait aussi souvent dans une atmosphère de studio diffusée par l'industrie musicale. Donc c'était aussi une utopie par rapport à l'hégémonisme d'un circuit culturel. Déjà, enfin, principalement la pop culture américaine, aussi les yéyés, qui donnaient aussi, enfin, à certains musiciens une impression de quelque chose d'à la fois cloisonné, mais aussi un manque de créativité, quelque chose de formaté. Et donc eux, ils ont voulu aussi casser tous ces codes-là pour en réinventer d'autres. On va casser les schémas des chansons, en fait la chanson qui était devenu quelque chose d'un peu stéréotypé, refrain, couplet, 3 minutes 30 pour être diffusé à la radio. Donc voilà, ça a été quelque part la création d'un autre monde musical possible et de musiciens d'un autre genre. La place de Malicorne dans le mouvement folk repose sur certaines ambiguïtés. Parfois, certains les considèrent comme n'appartenant pas réellement à ce mouvement-là, alors que pourtant ils ont une image grand public de figure de proue, de précurseur. C'est souvent des termes qui peuvent être employés dans des articles de journaux. Il se trouve que finalement, Malicorne a aussi hérite de certaines personnes qui ont été moins mises en avant, comme Jacques Benaïm du groupe Grand-mère Fille du Nibis Folk, qui a été une grande découverte pour moi, qui a à la fois peut-être révélé à Gabriel Yacoub le répertoire trad français, alors que Gabriel Yacoub à ce moment-là était plus sur des musiques d'old time. Mais c'est aussi quelqu'un qui était très important de manière générale pour le mouvement folk, à l'initiative du Bourdon avec d'autres musiciens, qui était un lieu d'échange, de partage de la musique, avec cette idée justement de créer un réseau alternatif. Et il me semble que, quelque part, le groupe Malicorne et Gabriel Yacoub sont venus quelque part mettre un pas de côté par rapport à ça, en frappant à la porte de chez Barclay, où était installé Hugues de Courson, pour finalement, c'est les premiers qui ont enregistré, par exemple, Pierre de Grenoble. Jacques Benaïm m'avait dit que voilà, certains titres qu'a enregistré Gabriel avec son premier album Pierre de Grenoble, c'était peut-être lui par son entremise que ça avait été transmis ou par des gens qu'il connaissait. Et en fait, Grand-mère Finibus Folk, par exemple, a enregistré un an après, chez Barclay, le titre Pierre de Grenoble. Donc voilà, quelque part, Malicorne a ouvert la porte à cette montée du folk dans l'industrie du disque. Il y a aussi l'ouverture de Malicorne à une musique électrifiée, modernisée. Ils ont beaucoup travaillé sur les textes pour les moderniser. Tout a été remanié et finalement, il n'y a plus grand-chose de traditionnel dans ce qu'ils utilisent et dans ce qu'ils transmettent au public. Mais c'est plutôt, quelque part, un grand hommage à ces musiques-là, plutôt qu'une continuité.
C'est un parti à prendre quand on préfère faire de la musique et la faire de la façon dont on la fait.
Vous avez fait aussi un autre parti finalement, c'est d'utiliser des instruments modernes pour de la musique traditionnelle. Ça, c'est un des partis pris qui existe actuellement dans la musique folk. Est-ce que ça ne crée pas quand même un certain nombre d'ambiguïtés musicales?
A priori, c'est le contraire qui en pose, parce que tout revient à savoir dans quel but on fait cette musique qui est traditionnelle, dite traditionnelle. C'est-à-dire que si on la fait telle qu'elle était voilà 100 ans, voilà 150 ans, à notre avis, ça rime à rien. C'est-à-dire que si la musique avait continué d'évoluer, on utiliserait actuellement les instruments modernes, donc il n'y a pas de raison pour ne pas les utiliser. Disons que le fait de ne pas les utiliser, à moins que ce soit dans une démarche très particulière de recherche de son, c'est une forme de snobisme à la rigueur, parce que ces instruments sont à notre portée, c'est des instruments fabuleux, tout aussi intéressants. Bon, ils sont plus récents, mais ils sont tout aussi intéressants. Et pourquoi pas les utiliser?
Donc voilà, pour ça, il y a quand même une, disons, il y a une véritable originalité à ce groupe. Il se démarque du mouvement tout en apportant quand même une grande contribution. Ils ont fait partie quand même des principaux lieux aussi de ces échanges-là. Ils ont permis de faire connaître le mouvement folk plus largement à un public qui ne serait pas forcément allé vers ça. Gabriel Acou fréquente les Outonanies, il est quand même rentré par la porte du trad aussi grâce à Alan Stivell. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui fréquente ces lieux-là sans avoir fait tellement de travail de recherche, de terrain, en tout cas pas au départ.
Jusqu'à présent, vous faisiez quand même pas mal de collectage d'anciens airs et vous les retravaillez.
Je t'arrête, je ne fais pas de collectage.
Ça fait pas du tout.
Non. C'est pas parce qu'on veut pas en faire, mais c'est parce que tout simplement on n'a pas le temps. C'est un travail qui demande une précision scientifique et beaucoup de temps, et on a ni l'un ni l'autre.
Alors vous profitez du collectage que d'autres ont fait.
Que d'autres ont fait là très longtemps, ouais. Qui ont édité des bouquins. On espère pouvoir un jour avoir le temps d'en faire, quoi, mais pour l'instant, c'est un parti à prendre quand on préfère faire de la musique.
Alors, Gabriel Yacoub a été très marqué par le travail de Steel Icepan notamment, aussi d'autres groupes comme Fairport Convention, des groupes anglo-saxons qui ont déjà créé donc, une musique électrifiée qui même prend le terme d'electric folk. Et cette musique va donc plonger un petit peu dans le rock, mais souvent aussi, donc par exemple Steel Icepan n'avait pas de batteur non plus, c'est aussi pour ça que Malicorne s'est dit « oui, c'est vrai qu'un batteur, ça met une rythmique un petit peu trop marquée, moi j'ai envie de plus de liberté ». En fait, il avait peut-être aussi envie de garder le lead de la métrique, donc ça lui permettait ça. Donc voilà, il y a cet héritage-là. Et les concept albums ont pu émerger par-ci par-là aussi, outre-Manche, mais pas du tout de l'ampleur de Malicorne. Ce qu'a fait Gabriel Yacoub, déjà c'est plusieurs concept albums, avec aussi donc, le paroxysme de ça, c'est le cinquième album Adela Rousseau, où là Gabriel Yacoub va jusqu'à inventer la biographie fictive de Adélard, compagnon du devoir, qui va faire les étapes du Tour de France, illustrée à chaque fois par une chanson, parfois des chansons compagnoniques, mais aussi prises dans d'autres types de traditions, allègrement aussi plongeant dans le répertoire québécois. Donc voilà, il y a quand même une pensée qui est des albums comme un tout, avec toujours, on veut raconter une histoire à travers tout ça.
Écoutez tous mes bons amis, vous qui vivez bien à votre aise, je vais vous chanter le récit de toutes les grandes misères qu'on peut avoir dans les chantiers, à travailler, à s'ennuyer dans une forêt si sévère, surtout dans le temps de l'hiver.
Malicorne, on va dire que ce sont des généralistes du folk, dans le sens à la fois d'un manque de spécialisation au niveau du répertoire qu'ils choisissent, au niveau d'une certaine liberté qu'ils ont pris par rapport à leurs sources, par rapport au fait que finalement ils n'avaient pas de complexe à mélanger des variantes qui venaient de différents endroits avec du matériel nouvellement composé, qu'ils sont allés piocher aussi du côté des polyphonies corses ou sardes pour leur polyphonie vocale a cappella. En fait, c'est un joyeux mélange. Et avec relativement peu de revendications aussi, comme pourraient le faire par exemple les régionalistes. Donc voilà, qui dessinent plutôt un autre courant, attaché à des régions comme l'Alsace, la Bretagne, l'Occitanie, où là, c'est des musiciens qui sont souvent allés puiser dans un répertoire plus local, revendiquant aussi l'attachement à une langue, à tout un héritage culturel très fort, à un instrumentarium plus précis, quoique. Et dans, on va dire, une troisième branche pourrait être représentée par un courant un peu plus traditionnaliste, comme Mélusine. On va dire que c'est vraiment les plus grands représentants de ce courant qui recherchent une forme d'authenticité, si on peut parler d'authenticité. Et quelque part, Malicorne se met complètement en porte-à-faux de ça, étant donné que ce sont des jeunes urbains, citadins, qui ont fait pratiquement aucun terrain, qui souvent partent de sources écrites ou d'enregistrements ou bien effectivement du travail de collecteurs comme ont pu l'être Mélusine.
À Landry, petit village, il y a des filles à marier. À Landry, petit village, y a des filles à marier. Y a des filles à marier dans la misère qui voudraient s'y marier, mais comment faire?
Et on va dire que Malicorne ne se situe ni vraiment dans la musique traditionnelle, ni vraiment dans la musique pop, et tout en se revendiquant d'une certaine forme de musique populaire, dans le sens de peut-être vulgariser une musique qui pourrait être moins accessible du fait qu'elle plonge justement dans des racines passées. Donc je pense à la fois à la musique traditionnelle, au patois qu'ils ont modernisé, mais aussi ils ont repris de la musique médiévale, renaissance, ou en tout cas ils se sont appuyés sur ces sources-là. Donc quelque part ils sont populaires dans un sens d'accessibilité, et aussi parce qu'une des grandes références de Yacoub dans son imaginaire sonore, c'était les Beatles. Donc il y a aussi, quelque part, un héritage de la pop culture qui est pleinement assumé par Malicorne. Donc c'est vraiment un groupe qui se situe au carrefour de plein d'influences qu'on pourrait dire à la fois populaires et traditionnelles, sachant que ça a pu être en dissonance par rapport à certains musiciens folk, qui voyait la musique pop comme une musique non pas populaire en sens qu'elle émanerait du peuple, mais au contraire qu'elle serait décidée par une élite marchande, bourgeoise, pour inonder le peuple et formater les goûts.
Voici la Saint-Jean, la grande journée où tous les amants à l'assemblée. Mignonne, allons voir si la lune est
Alors dans ma thèse, j'appuie beaucoup sur le parallélisme entre le revival de la musique folk et celui de la musique ancienne. À plusieurs titres, il y a eu quand même des collaborations et des échanges très fructueux de ces deux mouvements. D'une part, sur la quête d'une forme d'authenticité, ou en tout cas quelque part de récupérer cette musique après la récupération qu'ont pu en faire le wagnérisme d'un côté, le nazisme de l'autre, le pédénisme d'un autre endroit. Donc il y avait cette idée de repenser cette musique dans sa dimension historique, de rechercher les traités anciens pour comprendre sur quels instruments ça avait pu être joué, de recréer un son avec plus de fidélité. Donc il y a eu ces échanges-là qui ont été même concrets avec des collaborations de musiciens. Je cite beaucoup René Zosso qui a fait quelque part le ciment en fait entre ces différents univers-là, qui était violiste, qui a pu travailler avec des ensembles de musique ancienne et aussi beaucoup échanger avec le milieu folk. Voilà, il y avait une véritable émulation dans cette période-là qui est assez unique à mon sens. Malicorne a aussi enregistré des airs de musique baroque, des danseries de la Renaissance. Le terme uchronie, il est apparu dans mes recherches parce qu'il y avait un manque finalement dans le terme d'utopie qui est souvent repris dans le mouvement folk et qui explore moins ce syncrétisme temporel qu'a pu créer Malicorne. L'uchronie, c'est à la fois le fait effectivement de partir d'un point de l'histoire avec une part de réalité et d'imaginer et si tel événement s'était passé, comment aurait tourné l'histoire. Mais l'uchronie, c'est aussi une forme de sœur jumelle de la réalité. Il y a quelque chose dans la musique de Malicorne qui a pu leurrer beaucoup d'auditeurs, y compris moi quand j'étais petite et que j'écoutais cette musique en pensant que c'était de la musique traditionnelle. Et quelque part, l'objet de ma recherche, c'était aussi de me demander si la musique de Malicorne n'était pas substituée à la musique traditionnelle. Et donc l'idée, c'était de comprendre, par cette notion, de faire comprendre cette idée d'une musique qui plonge ses racines dans le passé, mais regarde dans le futur. Et il y a aussi cette idée dans tout ce qu'ils ont fait sur le travail sur les sources, en fait. Ils ont pris parfois 3, 4, 5 sources différentes qu'ils ont amalgamées à du matériau aussi nouvellement composé. Donc je parle à la fois des textes et de la musique pour faire quelque chose qui n'a plus rien à voir avec les chansons collectées de départ. Il y a tout cet univers aussi du conte qui est magnifié par Malicorne dans la manière dont ils ont beaucoup travaillé sur la trame musical pour créer presque des mini-opéras. C'est un terme qu'emploie Gabriel Yacoub et qui ne correspond pas à ce qu'étaient les musiques traditionnelles au départ, qui souvent se chantaient dans des veillées avec des formes parfois très monotones, on va dire, strophiques, en tout cas, voilà, quelque chose de redondant. Et c'est visiblement quelque chose dont Yacoub avait absolument horreur. Donc il fallait toujours qu'il rajoute une variation, qu'elle soit sur le plan mélodique ou sur le plan des instrumentations, du son. Voilà, donc il y avait cette idée d'une musique très dramaturgique et qui ne correspond pas à ce qu'étaient les musiques traditionnelles.
Et disons que dans le cas de Malicorne, on prend le parti de respecter la tradition, mais le fond de la tradition plutôt que la forme. C'est-à-dire qu'on ne se gêne pas du tout pour mélanger, par exemple, des versions, que ce soit d'ordre musical ou au niveau des textes. L'Écolier Assassin, c'est un mélange de 3 ou 4 versions différentes. Mais je crois que c'est ce qui nous importe le plus pour nous, c'est de restituer plus un climat, une ambiance, qu'une forme figée, fermée de musique ou de tradition.
Tout revient du monde visuel. Je viens des écoles, ma mère.
La notion de collage chez Malicorne prend une ampleur assez exceptionnelle. C'est pas quelque chose, un procédé qu'ils ont même inventé. C'est même d'ailleurs un procédé qu'on peut retrouver dès le Moyen-Âge et sans doute bien avant. On parle de contrefacture, par exemple. Voilà, le fait de reprendre une musique et de remettre de nouvelles paroles par-dessus, ou l'inverse, c'est des choses qui ont pu se faire assez fréquemment, dans toutes sortes de contextes. L'originalité de Malicorne, c'est que ça va être vraiment un des piliers de sa construction d'une trame narrative qui va illustrer les musiques que le groupe chante. Donc, par exemple, le fait de prendre plusieurs sources va leur permettre de mettre en scène plusieurs points de vue. Je parle par exemple des Tristes Noces. C'est un exemple particulièrement éloquent à ce sujet, où le groupe va vraiment créer comme une scène digne d'un film de cinéma, où on va voir se dérouler la scène sous nos yeux, avec d'abord le point de vue du narrateur.
Qui veut ouïr chanson, chansonnette nouvelle, chanteur rossignolet.
Le point de vue de la jeune fille, le point de vue du jeune homme, des amants en dialogue.
C'est d'un jeune garçon et d'une demoiselle, chanteur rossignolet. C'est d'un jeune garçon et d'une demoiselle.
Puis une scène de bal. Et donc tout ça va être aussi illustré par des séquences musicales très contrastées. Donc on voit la scène de bal quand elle se passe.
Je suis venu vous demander, je suis venu. Un petit tour de danse, un petit tour de danse.
Après, on va avoir un gimmick d'un quatuor de violon, avec des musiciens invités également, qui vont tout de suite nous remettre dans une atmosphère tragique alors qu'on était dans l'atmosphère du bal.
Au premier tour qu'elle fait, la belle tombe morte, chante rossignolet. Au premier tour qu'elle fait, la belle tombe morte.
Et chaque chose va vraiment créer comme une musique imitative, comme ça a pu se faire à l'époque baroque, où on aurait pu penser au poème symphonique, voilà, mais donc avec un côté très opératique aussi. Donc voilà, il y a tout cet univers de la dramaturgie qui va être illustré par le collage.
Les gens s'en vont disant, mon Dieu, les tristes noces chantent rossignolet. Les gens s'en vont disant, mon Dieu, les tristes noces.
Dans cette uchronie malicornienne, il y a aussi l'importance de la superposition des sources qui ne viennent à la fois pas du même contexte géographique, mais souvent pas du même contexte historique. Et là, on voit se superposer des strates d'histoire, notamment parce que parfois certains collecteurs ont eux-mêmes pioché dans une source qui a repris une autre source, donc parfois ils ont eu des sources écrites entre les mains qui étaient de troisième ou quatrième main, qui reprenaient des terminologies comme des duchés, des comtés qui n'existaient déjà plus à l'époque des collecteurs en question. Donc voilà, toute cette profondeur historique qui finalement ne trouve est insondable, m'a paru être éclairée aussi par ce terme d'uchronie.
C'était la fille d'un roi français que l'on marie à un Anglais. Oh, mes chers frères, empêchez de m'emmener. J'aimerais mieux soldat français que le roi.
Malicorne a beaucoup resserré ses thématiques par rapport à la diversité qu'on peut trouver au sein des musiques traditionnelles. Et il s'est notamment beaucoup plongé dans les longues complaintes dramatiques. Et ça, c'était vraiment un truc de Gabriel Yacoub. Il aimait les chansons de 7 ou 8 couplets à se tailler les veines, comme dirait Laurent Vercambre. Et donc très souvent, ce sont des histoires aussi tragiques socialement, qui reflètent la difficile condition féminine, la pauvreté, la misère sociale, les parias, par exemple Alexandre qui est orphelin et parricide. Voilà, il y a des chansons qui sont quand même majoritairement dans le registre dramatique. Et Malicorne se dit... pour la première fois dans Malicorne 4, chanteur de sornettes, fait pour divertir les passants, mais c'est parfois une diversion pas nécessairement si joyeuse que ça. Il y a quelques petits exemples de chansons comiques, comme Ma chanson Edith, qui est une petite pirouette en fin d'un album, le même d'ailleurs. Mais globalement, il va s'intéresser plutôt à des chansons assez lourdes de sens, et aussi à l'univers du conte. Il y avait une fascination pour toute forme de spiritualité de la part de Gabriel Yacoub, et je pense qu'il était rejoint un peu par ça, par Hugues de Courson. Donc il y a par exemple Claude Seignol, qui est ethnologue, qui avait publié Les Évangiles du Diable, et Malicorne s'en est inspiré pour une de leurs chansons. Voilà, il y a très fréquemment cet univers un petit peu fantastique qui revient. D'ailleurs, il y a Le Bestiaire, qui est un album de Malicorne qui illustre très bien ça.
Des orphelins de Saint-Ouen, de père, de mère et de parents, j'étais réduit de cette sorte, mendant mon pain de porte en porte. Un bon marchand par charité, ma pauvreté a eu. Un jour marchant dans la forêt, mon maître Alain part devant moi, saisi d'une rage destinée. Je levais ma sanglante épée, sans craindre mon Dieu tout puissant, je trempais la main dans son sang.
Malicorne connaît une évolution assez importante en termes de construction sonore. Le premier album, qui est un prémisse de Malicorne, donc Pierre de Grenoble, va avoir un son plus typé de ce qui avait déjà pu se faire dans le mouvement folk, notamment par l'entremise de Jacques Benaïm, avec des voix assez nasalisées. Donc Jacques Benaïm m'avait effectivement expliqué que pour lui, c'était une manière de se rapprocher de certaines traditions, à la fois des traditions américaines, assez nasillardes, mais aussi c'était une manière de... pour lui, de faire que les voix se mêlent complètement aux instruments, qu'elles deviennent un instrument par rapport à un autre, voilà, d'égale importance, et aussi une manière de faire porter le timbre. Et Malicorne, justement, sa particularité, c'est de faire dégager des solistes. Et donc, progressivement, en fait, il va arrondir le timbre, avoir des... contrairement à des groupes comme par exemple Mélusine, où les voix vont rechercher une vraie homogénéité, Malicorne, au contraire, porte des personnes très charismatiques. La voix de Gabriel Yacoub est très personnelle, très reconnaissable, celle de Marie Sauvet aussi. Et donc c'est aussi ce dialogue entre les deux qui vont être un peu mis en scène, le couple dans la vraie vie, le couple sur scène, le couple en chanson, qui va forger en fait l'identité sonore de Malicorne. Et puis progressivement aussi, il va y avoir un travail sur les polyphonies de plus en plus élaboré. Donc Malicorne, au départ, va souvent utiliser ce qu'on appelle des monodies, donc ça veut dire un seul chanteur soliste, ou même plusieurs chanteurs peuvent chanter la même chose, accompagné d'instruments, et puis des polyphonies, donc plusieurs voix, souvent à deux voix, parfois à trois voix, souvent harmonisées de manière assez simple, par quarte ou quinte, comme ça pouvait se faire à l'époque médiévale. En tout cas, c'est aussi un des héritages que revendique Malicorne. Donc là, on va avoir une couleur un peu typée médiévale, et puis progressivement, les polyphonies de Malicorne vont gagner en complexité, donc c'est-à-dire plus d'étages. On peut penser aussi à l'époque médiévale où on va avoir douplume, triplume, quadruplume, où Léonin et Perrotin, donc à l'époque médiévale, vont de plus en plus complexifier leur polyphonie. Eh bien, peut-être que ces autodidactes-là vont aussi, à force de travail et de recherche, se dire « Ah bah tiens, c'est pas mal, et si on en rajoutait une troisième, et puis une petite cinquième, tiens, et puis une sixième pour la route ?» Parce que oui, parfois, certaines polyphonies de Malicorne vont jusqu'à six voix, et c'est aussi grâce à ce travail de studio, ce qu'on appelle des overdubs, voilà, donc des choses où, grâce au studio, on va pouvoir faire du multipiste, et donc superposer comme ça les voix, et créer comme ça une couleur très spécifique à Malicorne, qui avait aussi ce luxe, ce temps du studio que n'avaient pas forcément tous les musiciens folk de l'époque.
Le mois d'avril s'en est allé, le mois de mai s'est approché, et Marion.
Malicorne a enregistré principalement des chansons et très peu d'instrumentaux, et ça fait partie des répertoires aussi qu'ils ont un peu laissé de côté, et notamment le répertoire du bal, tout ce répertoire festif et dansé. Ça a été peut-être aussi un des regrets de Laurent Vercambre, qui lui était plus sensible à ce type de musique. Mais c'est vrai que Malicorne s'est beaucoup plus concentré sur la poésie. En fait, ce qui inspirait avant tout Gabriel Yacoub, c'était les textes, peut-être même voilà, avant la musique. Donc la danse n'a pas été très exploitée par Malicorne. C'est que même quand ils reprennent des danses, parfois ils en changent que ce soit le tempo, pour justement amener plutôt une atmosphère de complainte, ou bien ils vont modifier la métrique. Il n'y a pas de relation qui est faite dans leur pensée entre le geste de la danse et la musique. C'est complètement séparé.
«
Malicorne a été aussi un groupe particulièrement inventif au niveau des associations sonores. Souvent, ils apportaient 60 instruments en studio. Ils faisaient énormément de tentatives d'alliage de timbres. Et aussi, les musiciens étaient extrêmement polyvalents. Parce que, par exemple, Hugues de Courson disait « Voilà, j'ai appris à jouer tel instrument. Je m'y suis collée pendant 2 heures. Et puis, hop, j'ai enregistré. Et ça y est, ça donnait tel titre. » Et puis, voilà. Donc, ça a permis cette liberté et cette audace aussi de fournir un matériau exceptionnel en termes de création de timbres. Et puis, il y avait aussi le travail des ingé-sons par-dessus. Alors, d'où viennent ces instruments? Il y a d'une part l'instrumentarium traditionnel français. On va citer évidemment la vielle à roue, plusieurs types de cornemuses. Ils n'ont pas utilisé par exemple la cabrette, qui est aussi une cornemuse rattachée à l'Auvergne, qui a utilisé la bamboche. Donc voilà, il y a eu des choix aussi, peut-être fait d'une manière fortuite parce que les occasions se présentaient, et puis aussi par goût parfois. Et puis il y a eu donc beaucoup d'instruments à cordes, du fait de Laurent Vercambre, qui jouait aussi bien viol d'amour, alto, violon. Voilà, il y a aussi du violoncelle. Il y a tout un tas aussi d'instruments qui viennent de différentes cultures. Donc il y a le tempura qu'ils ont pu utiliser, encore ce fameux Pierre de Grenoble, donc plutôt au sous-continent indien. Il y a tous les instruments des Appalaches, instruments américains, l'auto-harpe, le dulcimer. Il y a le nickel harpa, donc ça c'est une découverte aussi de Laurent Vercambre, qui est tombé amoureux de cet instrument du Nord. Donc voilà, il y a plein d'instruments comme ça qui ont été parfois repris juste sur un seul titre. Malicorne a beaucoup exploité les moyens du studio, certainement bien plus que tous les autres groupes de folk français, parce que c'était vraiment leur lieu de ressources, c'était vraiment un lieu de création à part entière et un lieu d'élaboration, d'échange. Donc voilà, après, le passage du studio à la scène a parfois été compliqué de la vie même du groupe, parce qu'il fallait... voilà, retranscrire des choses qui ne pouvaient pas être réalisables avec l'équipe de départ. D'ailleurs, souvent, les tournées ont été faites avec des musiciens différents des musiciens fondateurs de Malicorne. Aussi du fait de contraintes personnelles et autres, parce que quand même, les tournées n'étaient pas si simples à organiser à l'époque. Du coup, voilà, il a fallu souvent recruter d'autres personnes et puis réarranger les morceaux parce que il était difficile avec une telle richesse instrumentale et vocale. À la fois, on a parlé des polyphonies qui gagnaient en ampleur, mais aussi des instruments qui pouvaient être utilisés pour quelques notes à quelques endroits spécifiques. Les musiciens devaient très souvent changer d'instrument sur scène. Donc ça compliquait aussi un petit peu la fluidité des concerts. En tout cas, c'est quelque chose qui a été souvent souligné à la fois par... le public et aussi les musiciens. Bon, malgré tout, pour avoir écouté des enregistrements d'archives du groupe Je trouvais que ça se tenait quand même très très bien.
En
que...
live, tu veux dire ?
Oui, mm-hmm. absolument. En live, le résultat était quand même très bon et puis justement apportait de la variété par rapport à l'album.
Merci. On va terminer par une chanson où on aimerait que vous participiez, que vous participassiez. C'est très important. C'est une chanson qui ne prend de valeur que si elle est chantée par un bon nombre de gens. Et elle est très facile à chanter. Le refrain dit « C'est le mai, joli mai, c'est le joli mois de mai. » On essaye ?
C'est le mai, joli mai, c'est le joli mois de mai. Salut gens de cette assemblée, nous sommes venus vous visiter. Longtemps nous a fallu marcher et nous sommes bien fatigués pour chanter. C'est le mai, joli mai. C'est le joli mois de mai. Merci gens de cette assemblée d'être venus nous écouter et d'avoir bien voulu veiller jusqu'à la fin de la soirée pour chanter. C'est le mai, joli mai. C'est le joli mois de mai. Salut gens de cette assemblée, voici l'heure de nous séparer. Mais en rentrant dans vos maisons, vous emportez cette chanson pour chanter. C'est le mai, joli mai. C'est le joli mois de mai. Mais qu'avez-vous à tant pleurer, à gémir, à soupirer? Sans mentir, nous vous promettons de revenir à la saison pour chanter. C'est le mai, joli mai.